toutes et à tous. Vous êtes sur l'émission L'Instant Théovie avec le pasteur Thibaut Delarvel. Je suis le responsable donc de ce service qui a pour mission de rendre les textes bibliques accessibles à tout public, pour le dire comme ça, que ce soit par des personnes de confession chrétienne ou simplement en recherche. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le service theovie.org et ainsi de vous promener à travers les différents thèmes qui sont proposés. Alors, dans cette troisième émission consacrée à la résurrection, nous avons eu effectivement deux émissions consacrées à ce thème de la résurrection. Nous étions partis de l'idée que c'était un thème à la fois central, bien entendu, puisque le christianisme n'est rien sans la notion de résurrection, et en même temps que c'était aussi un sujet qui était délicat, voire problématique, puisque nous étions partis d'un sondage qui prétendait que sur 10 personnes, une seule pouvait croire en la résurrection. Donc encore une fois, l'idée, c'est pas de discuter ce genre de sondage, ce genre de chiffres, qui vraisemblablement ne veut pas dire grand-chose, parce que on peut pas évidemment réduire aussi facilement la place d'une notion, la place d'un concept, de différentes représentations aussi facilement. Mais en tout cas, ça nous donne une indication pour dire que c'est quelque chose quand même qui est foncièrement problématique. Alors nous avions essayé de voir ensemble que le caractère problématique de la résurrection n'était pas forcément quelque chose de très nouveau. Ça, c'est, je crois, quelque chose d'important à souligner, hein, parce qu'on pourrait penser qu'effectivement, voilà, nous sommes au XXIe siècle, nous sommes héritiers tout d'abord de la philosophie des Lumières, et puis ensuite des grandes avancées scientifiques, technico-scientifiques, et que finalement, voilà, c'est tout cela qui ferait reculer la notion de résurrection. On pourrait plus croire en la résurrection à cause de cette maturité de l'humain. Maturité intellectuelle, maturité scientifique. Eh bien, en fait, il n'en est rien, puisque la résurrection, je crois, c'est ce que je veux essayer de soutenir et de montrer, la résurrection est fondamentalement problématique, et cela depuis le début. Nous avions vu en effet que finalement la résurrection n'était pas quelque chose qui concernait la question de l'au-delà, des représentations sur le devenir des morts, même si, bien entendu, elle touche à cette question-là, elle permet de repenser ces questions-là, les questions du devenir des morts est une question évidemment très ancienne qui a diverses réponses en fonction des cultures, en fonction des époques, et finalement la résurrection n'est pas une réflexion à côté des autres sur ce sujet, mais c'est plutôt quelque chose qui permet de repenser cette question de éventuellement, en tout cas, du devenir des morts, mais encore une fois, ce n'est pas forcément non plus sa raison d'être principale. Puisqu'en effet, la résurrection dans le Nouveau Testament, on peut penser à cette discussion célèbre de Jésus avec les sœurs de Lazare, qui à un moment donné évoque la résurrection à la fin des temps, selon un peu une compréhension du pharisianisme de l'époque. Donc voilà, donc la résurrection qui serait située à la fin de l'histoire. Nous avions vu que effectivement, c'était dans l'évolution de cette compréhension de la résurrection, mais voilà que c'était quelque chose que le judaïsme avait fini par élaborer, notamment après la crise des Maccabées au deuxième siècle avant notre ère. Que finalement, voilà, un certain nombre de gens pourraient bénéficier de la résurrection, qui ne serait pas en tant que tel l'événement de salut, mais qui permettrait d'assister à l'événement de salut qui est le jour du Seigneur, qui viendrait au fond à la fin de l'histoire pour quelque part terminer l'histoire, mettre un sens à l'histoire. Quand on dit de terminer l'histoire, c'est pas de l'interrompre brutalement, mais c'est de la faire aboutir, de la faire accomplir. Voilà. Et donc finalement, la résurrection serait un moyen pour assister à cet événement-là. Et donc, dans cette discussion avec Jésus, finalement, Jésus rétorque plutôt dans l'évangile de Jean aux sœurs de Lazare qu'il est la vie et la résurrection. Et donc, quelque part, il y a une mise au présent de cette notion de résurrection. Et c'est ça qui, bien entendu, est totalement nouveau et donne un sens totalement nouveau à cette notion de résurrection. Donc on voit bien par cet épisode que la résurrection, encore une fois, n'est pas quelque chose qui touche à une fin, à un au-delà, hein, un au-delà de l'histoire, un au-delà de la vie, mais que c'est beaucoup plus un événement qui peut surgir, qui peut bouleverser le présent. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'essentiel à se souvenir. La résurrection, évidemment, non pas encore une fois comme quelque chose, voilà, qui serait une question métaphysique. Sur le devenir, de ce qu'il y a après la vie, de l'au-delà, de choses comme ça, mais au contraire une notion totalement existentielle, totalement événementielle, puisque finalement elle surgit dans le quotidien, dans la vie, dans le présent, dans l'actualité d'une existence. Voilà. Et ça, évidemment, c'est très présent lors de la résurrection du Christ lui-même, selon les évangiles, puisque on voit très bien comment cet événement de la résurrection du Christ, eh bien, va bouleverser littéralement la vie de ses disciples, la vie des témoins de cette résurrection. C'est cela qui est vraiment l'événement fondamental qui va être l'objet de la prédication. Le Christ est ressuscité. Ça ne projette pas encore une fois dans un au-delà, mais ça dit quelque chose qui est un événement, qui est une rupture, qui est un bouleversement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez essentiel dont il faut se saisir pour remettre cette question de la résurrection à sa juste place dans la foi chrétienne. Voilà, que ce n'est pas un chapitre, une sorte de, voilà, de chapitre dans les différentes comment dire, dans les différents aspects de la foi, dans les différentes croyances, dans les différentes espérances, mais que c'est tout simplement l'événement fondateur. Au fond, pour le dire même de manière assez radicale, il ne faut pas avoir peur de dire que la foi chrétienne, c'est ni plus ni moins le fait de ressusciter. Alors, il faudrait poser une équivalence entre le fait de croire et le fait de ressusciter. Au fond, croire dans le Christ ressuscité, c'est soi-même ressuscité. Voilà. Et faire l'expérience de la résurrection, c'est littéralement ça, la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est pas une croyance, c'est pas simplement une confiance. Ça, c'est quelque chose évidemment d'essentiel et d'important, mais au fond, c'est quelque chose que on doit retrouver dans d'autres religions. Il est certain que les juifs et les musulmans croient que donc quelque part, voilà, ils ont aussi confiance dans leur Dieu, dans ce qui est promis à travers leur Dieu. Voilà, dans la foi chrétienne, je pense qu'il y a quelque chose de qui est singulier et donc sensiblement différent, c'est que c'est pas simplement une question de confiance dans son Dieu, mais c'est aussi de participer à un événement qui est un événement, encore une fois, de rupture, un événement existentiel qui est la résurrection. Au fond, la résurrection du Christ, c'est ma résurrection, c'est ma foi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un élément essentiel qu'il faut tenir pour, encore une fois, remettre cette notion de résurrection au centre. On a vu aussi que la résurrection ne pouvait pas être réductible encore une fois, à des représentations. Et les représentations, bien sûr, elles sont inévitables, elles sont essentielles, mais on sait et il faut le redire qu'effectivement, dans le Nouveau Testament, il y a pour ainsi dire aucune représentation sur la résurrection. Il y a aucune représentation sur le devenir des morts. Donc, si on continue d'associer ça, ces deux notions ensemble, on va trouver quelques textes. Voilà, à un moment donné, il y a le riche et Lazare. Ou dans l'Apocalypse, il y a des discours qui peuvent penser qu'on est un peu dans ce registre-là, mais voilà, c'est beaucoup trop anecdotique pour considérer que ça fasse l'objet véritablement d'une représentation, disons, qui fasse autorité. Voilà, ce qui ne veut pas dire que c'est ce qui est dit dans ces textes-là n'est pas important et ne dit pas des choses fondamentales, mais on peut pas dire que ce soit, voilà, des objets de foi, des voilà, des dogmes ou des choses de ce registre-là. C'est plus, encore une fois, les représentations servent plus à essayer de dire quelque chose de la résurrection. Et finalement, on pourrait dire d'ailleurs que c'est peut-être plutôt dans le ratage ou dans l'incapacité qu'ont les représentations justement à dire la résurrection que finalement quelque chose de la résurrection peut être dit. Hein? Il y a un peu un paradoxe dans ce que je dis, dans ce que j'essaye de montrer, mais finalement, quand on prend les textes des quatre évangiles, eh bien, on voit que les quatre, chacun à leur manière, hein, c'est ce que j'ai dit dans une précédente émission, eh bien, ch chacun dans la narration, il y a quelque chose qui plante, hein, pour le dire en termes informatiques. Voilà, on raconte la vie de Jésus, des épisodes, des guérisons, des discussions, des miracles, etc., etc. Il y a la mort, tout ça, c'est du point de vue de la narration, de la chronologie narrative, quelque chose de cohérent qui se développe, même si entre les quatre évangiles, bien sûr, il y a pas la même chronologie, mais il y a une même logique qui se met en place. Et à partir du moment où il y a résurrection, là, les récits se mettent littéralement à planter. C'est-à-dire que finalement, ils essayent par des différents artifices narratifs, littéraires, ils essayent de dire qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Parce que la résurrection, c'est pas simplement une reprise des choses là où elles se seraient arrêtées. Donc en l'occurrence, c'est pas le corps qui a été mis à mort qui reprend vie, mais c'est beaucoup plus quelque chose qui a encore une fois qui fait rupture et qui fait que c'est ouvert quelque chose de nouveau et il y a un saut, disons pour le dire comme ça, entre les deux. Et c'est pour ça que je redis également cette idée importante que ce qui est à mon sens, la meilleure formule pour dire la résurrection du Christ, c'est le tombeau vide. Voilà. Et j'avais d'ailleurs bien souligné que pour cet aspect important-là, c'était l'évangéliste Matthieu qui était le plus précis puisque contrairement aux trois autres évangiles, finalement le tombeau s'ouvre vide devant les femmes. Hein. Donc dans les autres, les femmes arrivent, le tombeau est vide, la pierre est roulée. Donc on pourrait se dire quelque part, bah voilà, narrativement, si elles étaient arrivées un peu avant, bon bah elles auraient pu voir le trépassé, le crucifié qui s'est remis debout, qui a roulé sa pierre et qui est sorti. Voilà, chez Matthieu, on voit bien que le tombeau s'ouvre vide, donc quelque part, voilà, il y a quelque chose qui est suspendu. Voilà, il y a un ratage, il y a un plantage, on ne sait pas ce qui se passe, mais par contre, ce qui se donne à vivre, c'est bien justement ce ratage. Voilà. Et donc, on avait vu que Marc faisait fonctionner ça un peu à sa manière, puisque finalement, les femmes, elles, finissent dans le silence et la peur. Et puis, finalement, le fait que le récit soit présent montre bien qu'elles vont parler. Donc, quelque part, elles se sont appropriées l'événement existentiellement. Elles n'ont pas juste vu quelque chose, mais elles ont vécu quelque chose. Et quelque chose qui les a fait passer justement du silence et de la peur à la parole et à la joie. Donc quelque part, voilà, elles sont littéralement elles-mêmes passées de la mort à la vie. Elles sont littéralement ressuscitées. Et donc là, ça confirme bien cette idée importante que je soutiens, selon laquelle, eh bien, la résurrection, c'est ma résurrection. Hein, voilà. Donc Marc voit très bien de manière narrative dans son évangile qui met ça en place. On voit ça aussi quelque part dans les disciples d'Emmaüs chez Luc. Où quelque part, voilà, les disciples rencontrent le ressuscité, mais ne le reconnaissent pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose narrativement qui est intéressant. Le ressuscité n'est jamais reconnu directement. Il y a toujours quelque chose qui fait que, voilà, justement, il n'est pas accessible. Bon. Et chez Luc, c'est justement la rupture du pain qui évidemment fait allusion à la Sainte Cène qui va permettre de le voir, mais de le voir alors qu'il est déjà disparu. Donc on voit bien que là aussi, c'est bien de l'ordre de la foi, c'est bien de l'ordre d'une capacité à croire pour voir qu'effectivement les choses, c'est dans ce registre-là que les choses vont se passer. Voilà. Chez Jean, c'est exactement du même registre également. Voilà, donc encore une fois, c'est extrêmement important justement de remettre à cette notion de résurrection une réalité qui est totalement existentielle, qui est totalement événementielle, qui est totalement incarnée. Voilà. Donc ça c'est fondamental. Qu'après, effectivement, à partir de là, il puisse y avoir, disons, une espérance qui touche à la question de la vie après la mort, la question de la fin, etc., etc. C'est encore une fois évident, hein, y a aucun doute là-dessus. C'est même important, peut-être aussi des fois de pas oublier ça, parce que sinon on risque aussi de faire de la résurrection quelque chose de peut-être trop domestiqué, trop rationnel, hein, et ça c'est peut-être une tendance qu'on aurait nous aujourd'hui, justement, des fois dans un souci de discussion avec notre époque, de faire de la résurrection quelque chose de justement qui ne soit que existentiel et événementiel, et donc quelque chose qui fait que l'individu, voilà, bascule et a accès à une existence nouvelle. Voilà, quelque chose qui est parfaitement partageable avec des discours philosophiques, avec des gens qui seraient pas croyants, mais qui seraient intelligents, cultivés, etc. Donc, ça nous permettrait de discuter avec eux et d'être, disons, voilà, de montrer que notre foi a une certaine logique, une certaine intelligence, une certaine rationalité. Donc, ça c'est important et évident. Mais il faut pas non plus occulter que pour autant, voilà, il y a aussi une espérance qui est folle, qui est peut-être un peu, je vais le dire exprès de manière forte, mais qui est peut-être un peu débile, un peu délirante, voilà, de penser que finalement, tout n'est pas terminé, que finalement, voilà, il y a quelque chose d'après, même si encore une fois, je soutiens encore une fois, parce que ça me paraît important, qu'il faut surtout pas, que cette espérance dans un au-delà, que cette espérance dans une vie après la mort, une espérance dans la vie éternelle soit quelque chose, voilà, qui devienne, au fond, un sujet à l'obscurantisme. Parce que évidemment, là, c'est totalement irrationnel, totalement indémontrable, etc., etc. Donc, il faut pas non plus sombrer dans ce qui serait un opium du peuple, hein. Ça a quand même été une critique assez sévère et judicieuse. Donc, il faut pas se réfugier, il faut pas mettre la foi chrétienne dans ce genre d'abri, voilà, qui est un abri délirant, au sens où, il y a voilà, c'est quelque part une, on pourrait dire une illusion, voilà. Donc il faut pas, mais d'un autre côté, on peut pas non plus ne faire de la résurrection que quelque chose de strictement rationnel, de strictement individuel. Je crois qu'il faut pouvoir tenir ensemble, voilà, ce sérieux de l'événement dans l'existence, et aussi une certaine projection folle, totalement injustifiable, dans le fait qu'effectivement, ça nous promet un au-delà, un avenir, alors même que effectivement, on n'en voit aucun. Voilà. Sinon, c'est pas la résurrection. Sinon, c'est voilà, c'est un événement intéressant de vérité, de prise de conscience, de tout ce qu'on voudra, mais ça n'a pas la force de ce que, encore une fois, des grandes affirmations bibliques ou liturgiques par la suite. Penser bien sûr au credo avec son final sur on croit en la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Voilà, c'est quand même des grandes affirmations qui disent bien ce qu'elles veulent dire. Voilà, ça il faut impérativement, bien sûr, tenir ça et les mettre encore une fois en tension avec l'expérience concrète événementielle de la résurrection dans la vie. Alors, pour peut-être parler concrètement d'une actualité de la résurrection un peu dans le registre que je viens d'évoquer. Peut-être que l'exemple le plus parlant, le plus pratique qu'on peut évoquer, bah, c'est tout simplement celui de l'expérience des cultes d'action de grâce, hein, donc c'est les cultes qui sont faits à l'occasion d'un décès. Donc voilà, donc que ce soit au cimetière, au temple, au crématorium, hein, aujourd'hui il y a de multiples formes de vivre ces temps de culte. Au fond, qu'est-ce qu'on prêche, qu'est-ce qu'on annonce, quelle place on occupe dans ce type d'événement, en sachant aussi que bien entendu un enterrement, un décès, bien, il peut avoir une valeur et une réalité extrêmement différentes en fonction de la en fonction des circonstances. On peut pas annoncer exactement la même chose s'il s'agit de quelqu'un qui était voilà qui était plutôt en fin de vie, rassasié de jour, comme dirait une expression biblique, où là on a un peu l'expression, on a un peu l'impression, selon justement l'expression usuelle, que finalement bah, la mort fait partie de la vie, et donc quelque part on salue ce processus comme étant quelque chose de logique. Certes douloureux et toujours voilà toujours difficile à vivre, mais qui encore une fois est indépassable et en l'occurrence normal, voilà. Bon, et ça évidemment c'est complètement différent de décès où bah, voilà on a un décès qui est beaucoup plus insupportable, le décès d'une personne qui a été gravement gravement malade alors qu'elle aurait pu vivre encore 20 ans facilement en pleine possession de ses moyens. Donc quelqu'un qui va cruellement manquer à un conjoint, une conjointe, à des enfants, etc., etc., ou bien sûr encore pire, on tremble en l'évoquant forcément, le décès d'un enfant, voilà. Donc tous ces ou d'un jeune qui s'est tué accidentellement, des choses comme ça. Bon, voilà, c'est évidemment pas du tout le même le même événement, le même lieu, la même réalité, et on peut absolument pas prêcher la même chose. Voilà. Et donc voilà, malgré ça, quelle place on occupe, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien, quelle espérance chrétienne on peut et on doit quelque part soutenir, témoigner dans des moments pareils. Alors voilà, encore une fois, peut pas tout généraliser en une seule fois, puisque les circonstances sont forcément difficiles. Il faut aussi rappeler que dans la compréhension issue de la réforme, le culte d'action de grâce s'adresse aux vivants, et donc l'évangile s'adresse à ceux qui restent. Donc quelque part, il ne concerne pas la personne décédée qui après notre foi, notre croyance, voilà, n'a pas besoin d'intercession pour encore une fois trouver une bonne place auprès du Père, mais c'est beaucoup plus les proches qui restent, ceux qui peuvent être justement anéantis par l'incompréhension, la douleur, le chagrin, et éventuellement du coup bah, perdre la foi. Ça, il faut pas minimiser cette réalité que, enfin, je sais pas les auditeurs ce qu'ils en pensent, mais moi personnellement, dans mon expérience personnelle, j'ai régulièrement rencontré des gens qui avaient perdu la foi justement à l'occasion d'enterrement. Et là, j'ai pas peur de dire que trop souvent, des prédicateurs lors d'enterrement sont beaucoup trop légers et totalement inconscients, et que précisément leurs paroles ont eu cet effet de voilà de scandale au point que des personnes ont perdu la foi. Alors, il ne s'agit pas forcément de dire que c'est de leur faute ou quoi que ce soit, mais en tout cas, la parole n'a pas été consolatrice, n'a pas été édifiante, n'a pas permis d'aider des gens à tenir, mais au contraire les a plutôt enfoncés, scandalisés, et a provoqué beaucoup plus de rejet qu'autre chose. Donc il faut être extrêmement conscient que dans des circonstances pareilles, évidemment, bah, les choses se jouent quand même très rapidement à droite ou à gauche, quoi. Une parole fait du bien, une parole aide à soutenir, ou au contraire une parole enfonce, Et ça n'a rien à voir avec la morale, parce que dans les expériences que j'évoquais de personnes qui ont pu perdre la foi, c'est certainement pas parce qu'ils avaient entendu des horreurs. Les personnes qui ont parlé à ces occasions-là, elles ont essayé d'avoir des paroles bonnes, et ça n'a pas été le cas. Mais voilà, donc c'est pas c'est pas la qualité des paroles en tant que telle, ou l'intention des paroles plutôt qui est en question. C'est beaucoup plus le fait qu'elles ont pas été du tout adaptées à la situation, et comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. Donc c'est extrêmement important, encore une fois, de prendre conscience de l'intérêt de choses. Alors, personnellement, là je fais appel à mon expérience de pasteur, et donc de prédicateur lors d'occasion d'enterrement. Moi, il m'a toujours paru extrêmement important de partir justement de la souffrance réelle dont les textes témoignent de Jésus. À l'égard de la mort et de la souffrance des autres, hein. On a quand même des textes où Jésus est ému aux entrailles, où il est touché, où effectivement, voilà, la mort de personnes extérieures le touche et l'interpelle. Voilà, donc ça, c'est extrêmement important de rappeler ça, que du coup, la foi chrétienne, elle n'est pas une espèce de folie furieuse, où finalement les gens qui meurent, bah, on leur dit, bah, c'est pas grave, c'est super de mourir comme ça, vous allez être auprès de Dieu, etc., etc. C'est des paroles qui existent, hein, malheureusement, même au XXIe siècle, et c'est là justement où elles font des dégâts absolument redoutables, parce qu'en fait elles nient totalement le sérieux et la chair des gens. Voilà. Donc évidemment, ce genre de discours est totalement, j'ai envie de dire littéralement terroriste, hein, puisqu'au fond c'est le même registre où on dit c'est pas grave de tuer les gens, puisque finalement c'est pour une cause qui est plus grande, et que c'est mieux pour eux quelque part. Voilà. Donc non, certainement pas. Donc c'est important de montrer au contraire que la foi chrétienne, c'est une foi incarnée, que le Christ lui-même a été ému aux entrailles par la souffrance, la mort des autres, et d'ailleurs, que cette souffrance ressentie devant la mort des autres, elle s'est aussi redoublée devant la souffrance ressentie devant sa propre mort. Et ça, c'est quand même aussi extrêmement important d'avoir à l'esprit ce moment où, voilà, où le Christ, même jusque sur la croix, à un moment donné, demande si cette coupe ne peut pas être éloignée de lui. Voilà. Donc ça montre bien que la mort est quelque chose d'extrêmement sérieux, et que du coup, la résurrection, c'est pas un coup de baguette magique, voilà, qui va interrompre ou nier ou effacer de manière complètement folle une expérience qui est l'expérience terrible, douloureuse, effrayante, angoissante, désespérante, tout ce qu'on voudra, de la mort. Voilà. Donc ça, je crois que c'est extrêmement important, justement, de tenir ce sérieux devant la mort, qui est du coup un sérieux devant la vie, ce sérieux devant la condition humaine. Et là aussi, bah, quelque part, la foi chrétienne s'associe à tout ce que la littérature, l'art humain universel a pu produire aussi, voilà, pour montrer combien c'était une dimension importante, et voilà. Et on peut peut-être même aller encore au bout, puisque quelque part, il n'y a pas besoin de, et il faut surtout pas justement essayer de nier ce sérieux et cette réalité avec des discours faciles, mais en les assumant jusqu'au bout, puisque encore une fois, le Christ lui-même les assume totalement, et à aucun moment fait comme si, voilà, c'était pas si grave. Voilà. Donc ça c'est quelque chose d'important, de dire que la foi chrétienne ne nous permet d'être sérieux devant la mort, nous permet du coup d'être sérieux devant la vie, nous permet d'être sérieux devant la souffrance des autres, et que du coup ça doit nous pousser à assumer sérieux correctement, et pas s'en sortir avec voilà, avec des dénégations ou des illusions. Et en même temps, voilà, justement, pouvoir aussi articulé de manière complètement folle l'idée que, bah, comme le dit l'apôtre Paul, hein, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Donc ça montre bien qu'à un moment donné, voilà, dans la foi chrétienne, la mort n'est pas quelque chose de naturel, n'est pas quelque chose de bon, c'est quelque chose qui fait mal, c'est un ennemi, et que justement il est appelé à être vaincu définitivement dans l'espérance de la résurrection et de la résurrection genre, totale des choses. Voilà. Donc mettre en tension à la fois un sérieux devant la mort et en même temps voilà, pouvoir tenir qu'il y a l'espérance que quelque chose de la mort comme ennemi est promise à être vaincu et promise à être dépassé, même si on n'en a pas, je veux dire, les représentations, même si on n'en a pas les preuves. C'est encore une fois, c'est de l'ordre de l'espérance, c'est de l'ordre de la foi.
And now he's my friend.